6h03 exactement. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM en ce jeudi 2 avril. On regarde les prévisions météo. Ciel assez couvert aujourd'hui. Actuellement, c'est 2 degrés, le maximum prévu 5 pour aujourd'hui. Et la pluie comme telle devrait commencer au cours de l'après-midi avec des vents légers et pluie intermittente également au cours de la soirée, minimum de 3 durant la nuit. Pour terminer la semaine, on prévoit de la pluie intermittente, cessant au cours de l'après-midi. Il y aura un dégagement par la suite et un maximum de 7. Pour le week-end, c'est très confortable, on va être très bien. 8 degrés samedi, 10 degrés dimanche, mais pour l'instant, on prévoit du temps plutôt couvert. Il y aura un peu de soleil, mais pas beaucoup. Alors, souhaitons quand même que ça change, parce qu'au début de la semaine, c'était bien parti. Remarquez que ça s'est déplacé, tout simplement, puisque lundi, on prévoit du soleil et 11 degrés. Qu'est-ce qui est important de savoir ce matin? Vous avez entendu les maires de municipalités autour de Montréal qui souhaitent qu'on resserre la vis, qu'on fasse passer le message aux Montréalais de rester chez eux, comme le demande le premier ministre. Et c'est pas pour rien. La raison pour laquelle il y a cette demande très précise et qu'on demande aussi aux policiers de faire des contrôles, c'est qu'on ne veut pas surcharger le réseau de la santé à l'extérieur de Montréal. C'est pour éviter que des hôpitaux plus petits soient soudainement confrontés à des éclosions massives, notamment dans des résidences pour personnes âgées. Et c'est la raison de base, parce qu'actuellement, toutes les décisions sont prises pour maintenir le système de santé au Québec. Et vous regardez, par exemple, ce qui se passe dans les hôpitaux. Je vous le disais hier matin, ça s'est confirmé durant la journée. On procède strictement aux interventions chirurgicales qui sont majeures, vitales. Si on n'opère pas, le patient décède. Les autres opérations sont annulées, reportées, donc déplacées. À quand, on ne le sait pas. Et vous êtes sans doute nombreux, nombreuses à avoir reçu un coup de fil de votre centre hospitalier en vous informant que malheureusement, la chirurgie qui était prévue aujourd'hui est annulée, demain, lundi, mardi, mercredi, et on ne sait pas quand ça va être de retour. La ministre Danielle Mécan était, disons, floue hier, quand elle dit « des opérations prioritaires auront lieu ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, « prioritaire » Ben, je vous le dis tout de suite, là. Il y a des gens qui ont un diagnostic de cancer et pour qui l'opération prévue est annulée. On est rendu là. Et la raison, je pense que c'est important que le gouvernement l'explique, c'est qu'on veut garder le matériel de protection, les masques, les vêtements, pour la pandémie, la vague qui va finir par frapper le Québec. Le fameux pic. Le premier ministre disait hier, on en a pour une semaine. Peut-être, mais une semaine, c'est court. Et on comprend là qu'on veut gérer hyper serré. Alors là, c'est le choix. Quand on dit que le Québec est à l'heure des choix, c'est ça. Puis partout dans le monde, là, je faisais le tour ce matin des manchettes, là, aux États-Unis, on manque de masques. Les autres pays, c'est la même chose. Matériel, les fameuses blouses, vêtements, gants, c'est une réalité là, partagée par la planète. Donc, on choisit. On dit, toi, tu as un cancer, je t'opère pas cette semaine. Si j'attends la semaine prochaine, ben c'est peut-être pas si grave. Mais est-ce qu'on va être capable d'opérer la semaine prochaine? Pas certain. Dans deux semaines, on ne le sait pas. On nous explique là que la vague va nous frapper pendant le mois d'avril. Mais si je n'ai pas été opéré dans un mois, par exemple, ou trois semaines, on va reparler à des médecins. Est-ce que ça veut vouloir dire que la chirurgie va être différente, plus invasive? Est-ce que ça peut vouloir dire que mon pronostic va changer? Est-ce que ça peut vouloir dire que ma qualité de vie va changer? Je sais que pour les cas de cancer, on a dit à des patients, il n'y aura pas d'opération, mais il y aura des traitements de chimio. Puis on va y revenir ce matin plus en détail. Mais ce que je veux vous dire, là, puis c'est pas de faire paniquer les gens, c'est de vous donner la réalité. Et j'espère que pour les récalcitrants comme les Lionel Pérez de ce monde, chef de l'opposition à la ville de Montréal, qui lui fait des petites activités pour les fiançailles de sa fille en disant qu'il respecte la directive, mais que là, les voisins passent, puis il y a comme un attroupement, puis il nous explique qu'il n'a pas violé la directive. Il nous prend pour des innocents. J'espère que ce constat, cette pression exercée sur le réseau de la santé, devrait faire réfléchir des gens comme lui. Parce qu'il y a encore des gens qui ne le comprennent pas, qui prévoient des activités de groupe, des activités touristiques pour la fin de semaine. Et je peux vous dire que pour les médecins, pour le personnel soignant, les gens qui les appuient dans le réseau, ce sont des choix déchirants. Et c'est sûr que les cas de vie ou de mort, si je ne t'opère pas maintenant, c'est fini. On va opérer, mais on est en mode week-end dans les blocs opératoires. C'est ça que ça veut dire. Et ça m'amène à vous parler de la gestion des stocks. On apprend ce matin, d'abord, on le savait déjà, là, dans le sens où on tente de répartir les équipements là où on en a besoin, et particulièrement à Montréal. Ce matin, le Journal de Montréal nous parle de masques qui étaient destinés au Québec qui sont détournés vers les États-Unis. Alors, même des masques qui sont arrivés de l'Asie sur, je pense que c'est à Saint-Lambert, entrepôt, puis c'est reparti vers l'Ohio. Là, tu dis, pourquoi? Parce que les Américains ont décidé que c'était à eux autres. Et il y a des stocks également pour lesquels, dit-on, les Américains ont payé deux fois plus cher pour avoir le matériel. Quand je vous dis là que tout le monde court après les stocks, hier, on a transféré au ministère de la Santé je ne sais plus combien de courriels, de PME, d'entreprises qui offrent leur chaîne de production pour fabriquer masques et autres éléments là, de matériel de protection. On peut activer ça, là, mais on comprend que ça prend un certain temps et que la consommation est forte de ces produits. C'est une rareté. Donc, l'idée de limiter les cas, c'est assez fondamental. Puis, il y a des employeurs, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais qui continuent de regarder ça comme si de rien n'était. Dans plusieurs entreprises, la règle du 2 mètres n'est pas respectée. On prend, je dirais, des stratégies alors qu'on est supposé être fermé. Mais on essaie quand même d'être ouvert. Je comprends le réflexe de survie des gens, là. Mais t'es fermé. Puis, savez-vous quoi? Je mesure, parce que je lis vos courriels, l'impact de ces décisions sur le plan économique. Il y a des entreprises qui ne pourront pas se relever. Le fédéral a annoncé hier une tonne d'argent. Subvention 75% du salaire, puis bon, une série de modalités, des plafonds. Puis... Et on comprend que c'est important pour garder à flot l'économie, surtout dans l'après-crise. Mais il y a quelque chose qui enrage les gens, là, qui perdent leur emploi, qui se plient aux mesures, qui respectent les directives. Personne n'aime ça être confiné, mais on comprend qu'il faut le faire, au nom de la santé publique, puis au nom des gens les plus vulnérables. Puis quand on voit des tatas qui ne respectent pas ça, quand on voit que la police, je regardais la directive, je sensibilise, si ça ne suffit pas, je fais un rappel formel, si ça ne suffit pas encore, j'identifie les personnes, puis là, finalement, avant de considérer une arrestation comme étant le seul moyen raisonnable de mettre fin à l'infraction sur une base volontaire, donc il faut y prendre toutes les étapes. Je ne sais pas vous autres, mais je pense aux chauffeurs de la STM qui m'écrivent pour me dire qu'ils se sentent pas mal abandonnés, que le 2 mètres n'est pas respecté dans les autobus. Quand je prends le cas du métro, où on a réduit la fréquence, mais quand on réduit la fréquence, il y a plus de monde dans le métro, donc c'est à peu près impossible de respecter à certains moments de la journée la distance de 2 mètres. Tu sais, je comprends la logique, moins de monde, donc moins de services, mais en même temps, on concentre. Puis là, ces gens-là s'exposent. Là, tu te dis, on peut-tu, là, serrer à la vis? C'est-tu bien grave si on ferme les parcs en fin de semaine à Montréal? Le beau temps s'en vient, On peut marcher sur la rue en respectant, et Dr Arruda répète ça. T'sais, on peut bien avoir des masques, tout le monde, là, mais le lavage de mains et la distance, c'est ce qui est le plus important. Puis, on comprend que pour certains types d'emplois, ben c'est pas faisable. Fait qu'on va leur laisser les masques. Mais pour les autres, il me semble que, tu sais, le niaisage, ça commence à faire. Vous avez entendu les maires, moi, ça... Et sérieusement, là, si Québec est sérieux dans son discours, là, et je pense que le gouvernement est sérieux, là, pas pour rien là, qu'on laisse les usines fermées, pas pour rien qu'on bloque les chantiers de construction, qu'on a fermé les écoles, bien là, on devrait appliquer encore plus sévèrement la loi. Et juste vous dire que, à travers tout ça, le premier ministre, M. Trudeau, a dit que le Canada, et ça c'est franc, là, ne peut pas garantir un approvisionnement pour l'ensemble des provinces. On fait ce qu'on peut, on convertit des usines, mais il va arriver un moment où est-ce qu'on va être probablement incapable de faire arriver en même temps le matériel et le pic de la pandémie. Alors, c'est ça le portrait. Puis hier, là, quand j'ai vu l'histoire de Lionel Pérez, je me suis dit, coudonc, fais-tu exprès? Tu sais, puis je me mets à la place, là, les policiers sont allés, puis c'était un élu. Il y en a un autre clown, un élu qui est parti pour le Mexique la semaine passée. Je ne me souviens plus où, là, je pense que c'est un canton de l'Est, conseiller municipal. On a vraiment des beaux champions. Puis dans la presse ce matin, on revient sur ce cas d'un mariage célébré à Montréal le 16 mars, malgré les consignes gouvernementales. Ça a provoqué plusieurs cas de COVID-19. Propriétaire d'un hôtel montréalais qui a ouvert pour le mariage de sa fille, 180 personnes du Québec, de New York. Puis évidemment, les gens sont malades. Et l'homme d'affaires s'appelle Samuel Rosenberg, qui est le père de la mariée, puis qui dit bien que lui-même tous, puis que... Là, je comprends qu'on était à l'époque des consignes, là. Mais mettons que moi, là, ça, c'est le genre que t'envoies la police. Si quelqu'un ferait ça aujourd'hui, puis il peut vous dire qu'il y a encore des rassemblements, là. Mais là, c'est du têtage, c'est du niaisage. Puis bon, je veux juste avertir, je veux juste te sensibiliser. Je comprends, là, je dis pas qu'il faut passer les menottes à quelqu'un qui est dans un parc, puis... mais le niaisage, ça fait. Puis c'est comme les contrôles routiers en fin de semaine. J'ai hâte de voir comment on va appliquer ça. C'est pas un blocus, là. Ce sont des contrôles qu'on va exercer. Autre élément d'information, je pense, important aussi, beaucoup de gens m'écrivent au sujet des pharmacies. Et on a fait le point hier avec Bertrand Bolduc, qui est le président de l'Ordre. Il y a encore beaucoup de frustration des employés du réseau de la santé qui se font virer de bord dans les succursales. Il n'y a pas que, là. Il y a un questionnaire et on veut protéger les gens qui sont à l'intérieur. La vraie vie, c'est que les pharmacies, progressivement, vont fermer et ne vont conserver que le laboratoire pour répondre aux besoins des clients pour leurs médicaments. La consigne qui est donnée, la suggestion plus que forte, c'est de commander en ligne. Et je veux juste rappeler un élément important. Je comprends que tout le monde s'ajuste, là, et que le service est plus que variable entre les succursales, entre les bannières. Hier, je reçois un courriel, là, où pour la commande en ligne, ça prenait au moins un médicament d'ordonnance. Dans un autre cas, on livrait qu'aux 70 ans et plus. Dans un autre cas, ça prenait plus qu'un médicament, mais on ne prenait pas d'autres produits, c'était que des médicaments qu'on livrait. Fait que là, il faut juste comme harmoniser. Là, je sais, on s'ajuste. Il y a des gens qui m'écrivent en disant, « Monsieur Arcan, le livreur de la pharmacie est venu, il voulait être payé comptant. Il n'y avait pas d'appareil. » Là, on me dit que c'est réglé, tant mieux. Mais les gens, je comprends, là, il y a encore des brillants qui passent des circulaires. C'est des pharmaprix qui disent aux aînés, « Venez, c'est le rabais 20 %. » Tu sais, je vous dis, là, je pense que c'est le temps qu'on serre la vis. Alors, puis je regarde le bilan sur la planète ce matin, là. L'Espagne, l'Italie, ça continue d'augmenter. Et aux États-Unis, on va reparler avec Richard Châteauvert, là aussi, problème grave de pénurie, où on tente de trouver désespérément des masques et du matériel de protection. Dans les autres nouvelles, il y a deux choses ce matin, je pense qu'il faut aussi regarder de plus près. Et vous parlez de Martin Prudhomme. Bon, on sait qu'il n'est pas accusé au criminel. Daniel Renault, dans la presse, ce matin, nous dit que c'est la directrice des poursuites criminelles et pénales, maître Annick Murphy, qui a porté plainte. OK, la boss du DPCP porte plainte contre le DG de la Sûreté du Québec. C'est parfait. Quelle est la nature de la plainte? C'est pas trop clair. C'est même plutôt flou. Et ce sont des événements qui remontent à bien longtemps. Je veux juste rappeler rapidement les faits, là. Au mois de mars l'an passé, Martin Prudhomme a été relevé de ses fonctions comme directeur général de la Sûreté du Québec. On a expliqué qu'on avait une enquête criminelle qui était en cours. On n'a jamais su exactement pourquoi. Bien là, ça a l'air que ça émane de Mme Murphy. Et là où c'est vraiment assommant, c'est que ce que la presse dit ce matin, que la conversation entre M. Prudhomme et Maître Murphy aurait porté sur les fuites médiatiques à l'UPAC et des enquêtes sur ces fuites, conversations qui se seraient envenimées. En d'autres termes, je pense que M. Prudhomme signifiait à Mme Murphy, à Maître Murphy, qu'il y avait des fuites de son bord et que trouvait ça un peu ordinaire. Et si Maître Murphy s'était senti menacé par M. Prudhomme, comment ça se fait qu'elle est avocate, là? Comment ça se fait qu'elle n'a pas porté plainte formellement? À ce moment-là, évidemment, l'UPAC, pas l'UPAC, mais le DPCP ne commande pas. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on apprend que, donc, je vous rappelle, il a été suspendu en mars 2019. Selon les informations de la presse, c'est en mai, deux mois plus tard, 2019, que Martin Prudhomme, après qu'il a été relevé, que les enquêteurs ont terminé leur enquête sur les allégations le concernant et remis le dossier à un procureur pour que ce dernier décide si des accusations soient portées. Deux mois après. Comment ça se fait que la décision a été annoncée un an après? Il s'est passé quoi entre le mois de mai et le mois de mars cette année? Paraît-il des compléments d'enquête? Fait que là, on dit rien à Prudhomme, on laisse chez eux, on le paye. Le rapport est prêt depuis le mois de mai, puis on apprend la nouvelle officiellement là. Ça donne quoi comme impression? Il se passe quoi au DPCP? OK, tu portes plainte, as-tu tiré le dossier? Mettons que là, je ferai un petit procès d'intention rapide. A-t-elle décidé, ou quelqu'un du DPCP, en disant on va le laisser poireauter dans sa chaise? Pour conclure, un an après, que finalement, il n'y a rien. Et là, nous sommes dans l'enquête administrative. Ça va prendre combien de temps? Ben, ça se fait qu'ils ne l'ont pas fait en parallèle. Fait que là, le cœur de l'histoire, c'est une conversation téléphonique tendue entre le directeur général de la Sûreté du Québec et la boss du DPCP, Maître Murphy. Quand on connaît les relations, beaucoup entre des enquêteurs puis des gens du DPCP, là, parfois ça va bien, parfois ça va un petit peu moins bien. Et elle s'est sentie, quoi, menacée. Puis à l'époque, elle n'a pas porté plainte. Commande. Une enquête qui est réglée depuis le mois de mai. Puis bravo aux gens du Bureau des enquêtes indépendantes. Ils n'ont pas trop niaisé. Et là, c'est le DPCP qui a étiré ça pendant tous ces mois-là. Il y a des coups de pied au derrière qui se perdent, là. On ne peut pas croire que ça va rester comme ça, là, puis qu'on passe à un autre appel, là. Quand tu te sers de ton pouvoir pour régler tes comptes, c'est comme un peu beaucoup fort, là. Et on va également parler à Sophie Brochu, qui est nommée à la tête de Hydro-Québec, la nouvelle qui a été confirmée hier. Donc, elle sera avec nous un peu plus tard dans l'émission ce matin. 6h23, on y va avec l'autoroute des Laurentides.